Éric Pictet, bonjour.
Bonjour Didier.
Vous êtes le directeur général du bureau de Paris de Musinic et Co. On va parler avec vous de dette, de crédit. Alors sur ces marchés, peut-être comme on est à moitié de l'année, si on peut refaire un dessin quelque part de ce qui s'est passé depuis le début de l'année. Dans quelle ambiance, on peut dire, de marché on a été?
Ben, on est dans une ambiance assez particulière qui aurait pensé que avant de parler du crédit, de parler des taux d'État, que les taux d'État auraient une telle performance avec une baisse du rendement. Au début d'année, les consensus étaient que les actions allaient bien performer et que les obligations allaient avoir des problèmes. Or, aujourd'hui, à mi-année, on se retrouve avec les obligations à 10 ans américains qui sont à 2,50, 2,60, qui ont baissé de 50, 60 BP, alors qu'on les voyait tous, enfin, en tout cas, le consensus, à 3, à 3,40. Bon, alors on est à un turning point néanmoins, on ne peut pas annualiser les performances dans le crédit, puisque sinon on aurait du 10%, ce qui serait un petit peu beaucoup. Mais quand on regarde, bien sûr, aujourd'hui 50 à 75% des performances dans le crédit, ça dépend si on est à yield ou si on est investment grade, sont venues donc de la performance des obligations d'État et de la baisse des taux.
Donc c'est, on va dire, un marché qui a été pris à contre-pied, comme ça arrive parfois, par rapport au consensus.
Exactement. D'un autre côté, on pourrait se demander, avec la France par exemple à 2 000 milliards, pratiquement à 2 000 milliards de dettes, allez, on n'est pas à 100%, mais ça va arriver assez vite, et avec des taux à 1,80, est-ce que c'est bien tenable? On a le sentiment un peu qu'on est en apesanteur, on a une volatilité qui est vraiment au plus bas, en plus. Donc combien de temps cela peut-il durer? Alors sur le crédit, sur les entreprises, à la limite c'est difficile de faire de la macro, mais en termes de micro, eh bien les entreprises sont quand même très bien gérées, toujours. Une petite croissance sans déflation, ça suffit à faire de la performance. Et comme beaucoup de gens essayent de trouver du rendement, eh bien, il y a toujours des souscriptions sur ce type de support, sachant que maintenant, bien évidemment, ça n'est que le coupon au mieux qu'on peut arriver à capter.
Oui, là-dessus, c'est vrai que bon, on a vu les entreprises peut-être même en profiter de cet environnement qui leur reste, on va dire, toujours favorable.
Alors, on a eu beaucoup, beaucoup d'émissions, surtout en Europe. L'année dernière, il y avait eu 399 milliards d'émissions dans le high yield, hein, si on prend uniquement de le high yield, dont environ 25% en Europe. Depuis le début de l'année, il y a eu à peu près 200 milliards de souscriptions, dont 78 milliards équivalents US, mais de sociétés enfin, en non-USD. Et donc, le sentiment qu'on a, c'est que beaucoup de sociétés se sont refinancées. Il y a un peu de M&A qui arrive maintenant aussi, mais c'est des M&A qui sont stratégiques, donc les leviers restent tout à fait modestes. Et finalement, même si le levier a augmenté un petit peu, comme les taux ont baissé, finalement, les intérêts payés par les entreprises ont plutôt réduit.
Alors, il y a même eu dans ce contexte-là, comme disent les spécialistes, une dégradation des protections, des covenants. Ça, c'est un phénomène durable?
Oui, il faut voir ça un peu dans le détail parce que il faut regarder plus en détail comment les covenants et les couvertures sont réellement faites. Donc, ça n'est pas inquiétant dans le principe. Il faut voir le trend. Ce qui est sûr, c'est que le cycle du crédit n'a pas pu se faire à cause des éléments que j'ai expliqués plus tôt. L'humain étant greedy de toute façon, il va bien falloir à un moment donné, si la croissance repart fort, il y aura de plus en plus de M&A, il y aura de plus en plus de leviers, et ces leviers-là vont apporter à terme, 2-3 ans plus tard, des taux de défaut qui vont arriver. Pour l'instant, on n'en est pas là, on est à 400 basis points de spread aux États-Unis, on a perdu 50 BP depuis le début de l'année, on est à 120 BP du plus bas qu'on a connu en mai 2007. Bon, on ne peut pas beaucoup baisser, mais il n'y a rien d'inquiétant par rapport au taux de défaut actuel.
Donc quelque part, cet environnement sur le high yield reste favorable, alors qu'effectivement on aurait pu dire à un moment donné ce que vous dites, c'est-à-dire que le taux de défaut peut-être aurait pu évoluer, on n'en est pas encore là.
Bon, si je prends une métaphore, je dis qu'on est en sixième vitesse dans une voiture, c'est-à-dire on appuie, mais il n'y a plus grand-chose. D'un autre côté, en face de nous, il y a quoi? C'est du plat ou un léger faux plat montant? Mais il y a assez de puissance aujourd'hui pour la monter. Il faudra voir comment se passe à la fois la croissance, le levier des entreprises et les taux de défaut futurs.
On parlait tout à l'heure des obligations, quand on a vu quand même que des marchés, enfin des taux espagnols, quelque part, présentaient moins de risques que des taux anglais, par exemple. Il y a un moment donné, les investisseurs qui se disent quand même, mais quel raisonnement peuvent tenir les investisseurs pour créer ce genre de marché?
Ah ben on est d'accord, la Grèce était maintenant tombée le 11 juin avant les annonces à 5,50, le plus bas depuis décembre 2009. Alors depuis, quand même, le Portugal, la Chambre constitutionnelle a refusé quelques réformes du gouvernement, donc on a repris 48 BP. Mais ce que j'ai dit pour la dette française au début de l'intervention est encore plus valable pour les pays dits périphériques. Donc où est le risque? C'est pour ça que je dis toujours, effectivement, le risque dans un crédit, dans un portefeuille de crédit bien diversifié est sans doute moins important que dans les États. D'un côté, si les États ont de réels problèmes, ça aura bien sûr des impacts importants sur la vie économique.
On est à la mi-2014. Pour beaucoup d'investisseurs, il y a effectivement l'horizon 2015 avec ce que fera la Réserve fédérale américaine. C'est ce qui va créer peut-être un peu plus de volatilité à un moment donné de ce cycle-là.
Ben, on l'a vu déjà il y a un peu plus d'un an, au moment de l'annonce que ça allait peut-être arriver, il y a eu un impact énorme sur les pays émergents, hein, puisque tous les pays émergents avec des comptes courants négatifs ont vu leurs devises baisser de 10 à 20%. D'ailleurs, curieusement, c'est assez drôle, quand on regarde l'Inde, la Turquie, le Brésil, etc., ce sont les meilleures performances depuis le début de l'année, alors que ben, maintenant c'est réel. On a vu également que la croissance, en tout cas le froid, le lever rigoureux, avait un impact beaucoup plus important qu'attendu, puisqu'on était attendu moins important, on était pratiquement à moins 3 de baisse, ça va avoir une influence, mais on est reparti sur une croissance à peu près effectivement correcte. Donc bien sûr qu'il y aura un effet, mais il faut voir ça, j'allais dire, step by step.
Si on termine sur les conséquences pour justement la stratégie sur ce segment-là, l'été peut être particulier, on sait toujours, hein, sur les marchés en général, mais quelle est la tendance que vous donnez, vous ?
Bon, la tendance, c'est une certaine prudence. Clairement, il faut être discipliné dans ses investissements. Les banques ne prennent plus rien dans leurs livres, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des souscriptions positives. Le jour où il y aura des souscriptions négatives, des désinvestissements d'investisseurs, eh bien, forcément, il y aura des baisses de prix. Mais s'il n'y a pas de changement majeur au niveau économique, chaque baisse de prix, en tout cas dans le crédit, rend le rendement supérieur et rend à ce moment-là le rendement relativement attractif. Donc, on devrait retrouver assez rapidement, sauf encore une fois mouvement majeur, soit économique, soit géopolitique, puisqu'on n'en a pas parlé, on devrait trouver des investisseurs qui reviennent assez rapidement sur les marchés.
Voilà, donc ça reste en tout cas, il y aura encore des opportunités, sauf, on va dire, cas de force majeure, mais que ça qui toucherait tous les marchés.
Oui, c'est une allocation qui n'a pas beaucoup de risques aujourd'hui en termes de risk-reward, mais qui a beaucoup moins d'opportunités que d'autres qu'avant. D'un autre côté, je vois assez peu d'asset class qui ont un risk-reward extrêmement attractif aujourd'hui. Donc en relatif, ça reste effectivement attractif.
Merci Eric Pictet d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup Didier.